Un dictateur russe, Vladimir Lénine, par Jules Chancel. Vladimir Ilitch Ulyanov est né le 10 avril 1870 à Simbirsk, sur la Volga. Son père était directeur des écoles primaires du district et sa mère fille d'un médecin militaire. Il appartenait donc à cette classe de petits fonctionnaires bourgeois qui en principe n'avaient pas à se plaindre du tsarisme. Et pourtant, dès sa prime jeunesse, Vladimir laisse savoir ses tendances socialistes. Il fit ses études de droit et s'inscrivait ensuite au barreau de Samara. Sa grande ambition était simplement de devenir clerc d'avoué. Jusqu'en 1887, les rapports de ses maîtres n'avaient signalé en lui rien d'anormal ni de dangereux. Son caractère se distinguait surtout par une grande réserve et une sorte d'insociabilité qu'on attribuait à la timidité. C'était d'ailleurs un bon élève, docile, appliqué à tous ses devoirs, même religieux. En 1887, son frère aîné fut accusé de complot contre la vie du tsar et condamné à être pendu. Cette exécution contribua à jeter le jeune étudiant vers le parti révolutionnaire, en quelque sorte malgré sa volonté. Depuis la mort de son frère, la police avait l'œil sur lui. On lui reprochait de lire en cachette le Capital de Karl Marx et de passer ses journées à noircir les marges de ce livre de notes et de résumés. Il ne semble pas, cependant, que la fin tragique de ce frère ait, comme l'ont dit la plupart de ses biographes, hanté toute la jeunesse de Lénine. Il supportait, au contraire, assez mal la popularité que cette parenté avec un martyr révolutionnaire lui valut tout de suite dans les milieux avancés. L'ingénieur Krassine nous le représente comme un petit employé trapu et voûté, déjà vieux, avec un vaste front jauni par la calvitie, un visage ridé et semé de taches de rousseur, une barbe rousse embroussaillée. Voici cependant ce petit employé modèle qui se met à fréquenter les réunions révolutionnaires. Il y intervient, mais sans passion, se bornant à étaler des formules, des chiffres et des statistiques. Personne ne le prenait très au sérieux. En décembre 1893, Lénine se rendit à Moscou pour assister à une réunion secrète après laquelle, avoue-t-il lui-même, il comprit quelle devait être sa vocation et son étiquette. Il voulait devenir le fils unique de Marx, car, affirmait-il à Krassine, la révolution ne sera possible que le jour où il y aura en Europe 3 ou 4 hommes capables de comprendre Marx. Le grand agitateur ouvrier de cette époque était Chelgunov. Krassine comprit l'intérêt qu'il aurait à donner comme collaborateur à cet illettré, le jeune homme timide, mais froid et réfléchi, qu'était Lénine. Krassine avait vu juste et le futur dictateur aida fortement son maître à créer une véritable association révolutionnaire de travailleurs. Mais les travailleurs et Chelgunov lui-même ne pouvaient s'empêcher de trouver un peu anodin les moyens employés par Lénine. Ils ne comprenaient pas l'importance de cette propagande sourde et continue, de ces tracts bourrés de chiffres que celui-ci imprimait clandestinement et répandait à profusion parmi les élites ouvrières du Poutilov et de Viborg. Lénine se souciait d'ailleurs fort peu du mépris et même de la méfiance dont il était entouré par ses coreligionnaires. « Je ne suis pas ce que vous appelez un homme d'action », disait-il un jour à Chelgunov, qu'il conseillait de prendre aux luttes ouvrières une part plus active. On verra par la suite la vérité de cette appréciation et combien il répugnait au futur grand pontife de la Révolution de se mêler aux luttes comme de prendre une part personnelle aux événements. Il attendra patiemment que ces événements qu'il prépare sourdement, le porte d'eux-mêmes à la place qu'il ambitionne. Mazarin et Robespierre n'avaient pas procédé autrement. Après un voyage en Suisse, où il alla visiter les grands pontifes du marxisme, Lénine rentra en Russie à l'automne de 1895 et fonda la Ligue du combat pour l'affranchissement de la classe ouvrière. Enfermé dans sa misérable chambre, au cœur de Saint-Pétersbourg, toujours éloigné des clameurs et de la foule, il restait nuit et jour penché sur ses notes, ses statistiques et dictait de loin en loin les lois de la lutte par ses brochures et ses journaux. Malgré cette attitude prudente, dans la nuit du 8 au 9 décembre 1895, il est arrêté avec tous les chefs de la Ligue. Avec la plus grande tranquillité, il se résigne à la prison et pendant 14 mois, dans sa cellule, il continue à rédiger ses éternelles notes tout en préparant son grand ouvrage « Le développement du capitalisme en Russie » qu'il achèvera au cours de sa déportation en Sibérie, qui dura 3 ans. Voici donc Lénine relégué dans le petit village de Chouchnkolé où sa femme, Nadadja, et sa mère sont venues le rejoindre. il ne faudrait pas passer sous silence cette compagne de Lénine qui joua dans toute sa vie un rôle des plus prépondérants. Cette femme, si elle n'était pas belle, était énergique, d'une intelligence virile, et fut non seulement pour son mari une collaboratrice précieuse, mais une épouse pleine de dévouement dans le sens le plus bourgeois du mot. Partout elle le suivit durant tous ses exils, à Londres, à Paris, en Allemagne, en Suisse. Dans la modeste petite chambre de Montrouge comme dans le palais du Kremlin, elle demeura toujours la même, patiente, douce, active, veillant à la fois sur la santé de son grand homme avec un soin jaloux et le déchargeant d'une part considérable de ses travaux. « Notre ménage, disait parfois Lénine, en appuyant la tête sur l'épaule de cette épouse modèle, est un vrai ménage bourgeois. » En Sibérie, le futur dictateur mena exactement la même vie qu'il avait menée partout. Il restait toute la journée enfermé dans sa chambre à compulser ses documents. Le soir, il allait avec sa femme se promener dans les champs ou pêcher à la ligne, un livre à la main. Plusieurs fois par semaine, il organisait, sous l'œil de la police, des réunions de déportés devant lesquelles il discutait des principes marxistes. En 1900, il est libéré, mais son tempérament, opposé aux conspirations, le pousse à quitter la Russie où il se sent traqué par la police, aussi passe-t-il la frontière et va-t-il se fixer à Munich. On voit que, ainsi que le disait Malaparte, la liberté est aussi nécessaire à ce révolutionnaire que l'ordre et la sécurité. À Londres, il s'amusa follement, disait-il lui-même, en écoutant les discours de ces faux social-démocrates anglais, dont le marxisme puritain lui apparaissait si ridicule. Mais Lénine n'est pas de ceux qui s'amusent longtemps, et au congrès du parti qui se tint à Londres, il exposa enfin son plan de révolution. Ce fut également à Londres qu'il fit la connaissance de Trotsky, l'homme d'action sans lequel Lénine serait toujours resté le petit bourgeois écrivain et mystérieux. Trotsky fit part à Lénine de son désir de travailler avec lui au triomphe de la révolution prolétarienne, mais Lénine resta froid au début devant ce bel enthousiasme et cette fièvre d'action qu'il redoutait par-dessus tout. Par la suite, il comprit cependant le parti qu'il pouvait tirer de cette violence, mais en se réservant de choisir le moment où il pourrait l'utiliser. Entre-temps, il était venu à Paris et habitait Montrouge, rue Marie-Rose. Beaucoup se souviennent de ce petit homme tranquille qu'on trouvait, jouant aux échecs, dans un modeste café de l'avenue d'Orléans, ou occupé à nettoyer, en manche de chemise, sa bicyclette sur le trottoir de sa maison. Personne ne se doutait alors que ce modeste cycliste deviendrait le chef de la Russie rouge. « Savoir attendre, disait Lénine, est le devoir de tout révolutionnaire. » Et il attendit ainsi, paisiblement, jusqu'au mois de mars 1917. À cette époque, la révolution, sa révolution, a éclaté à Petrograd. Il peut partir, il peut rentrer en Russie. On connaît les détails de ce fameux voyage en wagon plombé organisé par des traîtres à travers l'Allemagne. Celle-ci avait compris l'intérêt qu'elle avait à lâcher sur la Russie cette fureur rouge qui allait la retirer de la lutte. Le 16 avril 1917, les révolutionnaires sont reçus triomphalement à la gare de Finlande par les marins révoltés de Kronstadt. Lénine harangue les marins, leur prêche la prise du pouvoir, puis disparaît, tandis que Trotsky se jette dans la mêlée et se fait arrêter. Après cette arrestation, Lénine juge utile de s'en aller un peu plus loin. Il se déguise en soldat et gagne la Finlande. Là, il passe 3 mois, 3 superbes mois d'été, sous une hutte de branchage dans la forêt, et on peut dire que cette hutte de branchage fut le quartier général de la révolution russe. C'est de là, en effet, que Lénine envoya à ses camarades ses conseils et ses directives, qui étaient d'autant plus violentes que lui-même était plus éloigné de l'action. Cependant, le néfaste et incapable Kerensky eut l'idée lumineuse de faire ouvrir les prisons pour défendre la liberté du peuple russe. Parmi ces échappés de prison se trouvaient les collaborateurs de Lénine, dont Trotsky. Dès lors, les bactéries de la révolution ne tardent pas à gagner tout le corps de la Russie. Vers la fin de septembre, Lénine commence à prendre ombrage des succès de Trotsky et, quittant brusquement Helsingfors, se rend à Petrograd, toujours déguisé. Va-t-il enfin quitter sa perruque et se jeter dans la mêlée, prendre sa part de responsabilité? Pas encore. Il reste terré dans sa maison de Viborg, d'où il envoie sans relâche des billets à ses lieutenants et des articles à ses journaux. Les événements se précipitent. Dans la nuit du 23 au 24 octobre, Trotsky fait avertir Lénine de se tenir prêt, car il va attaquer. En effet, dans la matinée du lendemain, les points principaux de l'organisation technique de l'État étaient occupés par les gardes rouges. Seul, le palais d'hiver résiste. Lénine ne paraît toujours pas. Le soir du 25 octobre, au bruit des mitrailleuses qui crépitaient, on vint annoncer au futur dictateur que le drapeau rouge flottait au palais d'hiver. « Enfin !» s'écria-t-il. Cette fois, il enleva sa perruque et courut à l'Institut Smolny, rejoindre les conjurés et, selon sa formule, expédier les affaires courantes. Là encore, il s'enferme dans son cabinet de travail avec ses notes, ses papiers, et rien ne peut le troubler. Il n'entendit pas les hurlements des masses déchaînées, pas plus que les plaintes des victimes. Sans relâche, il rédigeait des décrets, des articles et des proclamations. Tel qu'il était dans cette petite chambre le 24 octobre, tel il restera au Kremlin durant toute sa dictature. Les conséquences de ses décisions, il ne voulait même pas les connaître, et un jour que quelqu'un lui citait le chiffre des contre-révolutionnaires fusillés, il arrêta l'informateur avec humeur et s'écria d'une voix rauque « Pourquoi me parler de ces histoires? Ce n'est pas mon affaire !» 3 ans plus tard, il comprendra peut-être et avouera avec tristesse « Je me suis trompé. » « Étonnant aveu, » dit Malaparte, chez un homme qui s'était constamment refusé à agir dans le domaine des réalités. Depuis ce moment jusqu'au jour où la paralysie le cloua dans son fauteuil et où son esprit sombra, tous ses actes et tous ses discours sont remplis de sagesse et de prudence. Il démolit ce qu'il avait construit et va même jusqu'à jeter à la mer sa fameuse idole, Karl Marx. En octobre 1922, la maladie le terrasse définitivement. Il essaye encore d'écrire, mais il s'endort sur son papier. Le 13 novembre, il trouve la force de monter à la tribune du congrès de la 3e internationale, mais, en redescendant, il tombe évanoui. On l'emporte à Gorki, près de Moscou, où il mourut après des mois de sinistre agonie. Ainsi s'achève Un dictateur russe, Vladimir Lénine, par Jules Chancel.